Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le dernier numéro de Vivante Église cette semaine. Il y a quelques jours, le 23 février, était commémoré le 70e anniversaire de la mort de Paul Claudel. Que se passe-t-il 70 ans après la mort d'un écrivain? Eh bien, son œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public l'année suivante, donc le 1er janvier prochain, concernant celle de Claudel. En attendant cette date, il m'a semblé que cet anniversaire était l'occasion de rendre hommage à l'un de nos plus grands auteurs catholiques. Deux invités pour évoquer la vie et l'œuvre de Paul Claudel, Claire Bressolette, professeure de lettres et de philosophie, productrice de l'émission La philosophie réaliste sur Radio Présence. Elle est à mes côtés dans ce studio. Et puis Bonjour. Nous avons au téléphone Claude D'Andrea, également professeur de lettres et aussi professeur d'anglais, grand connaisseur, grand admirateur de Claudel, dont il a monté certaines des pièces. Nous allons commencer par le début, si vous le voulez bien, c'est-à-dire en nous intéressant d'abord au milieu dans lequel va grandir le futur auteur du Soulier de Satin. À quoi ressemble la famille dans laquelle naît Paul Claudel en 1868, puis sa vie d'enfant et d'adolescent? C'est Claire Bressolette qui va nous expliquer tout ça.
La famille Claudel vit à Villeneuve-sur-Fère dans un presbytère. L'arrière-grand-oncle était prêtre, mais la famille, comme très souvent dans ce milieu, je pense à Maritain, qui est un parallèle à faire, n'est pas croyante. Claudel et le Benjamin, deux sœurs le précèdent, l'une pianiste, Louise, l'autre sculptrice, Camille. Et lui, le petit dernier, fait ses études à Louis-le-Grand, puis fera ses études de droit et finira diplomate brillant. Voilà pour enfance-adolescence rapidement. 300 habitants, un petit village de Picardie. Et je voudrais vous faire un portrait de Claudel tiré de ce que va dire Gide de Claudel, disant « il n'a pas de cou, il a une tête de taureau ». Je pense qu'avec ce point de vue de Gide, on a tout Claudel, c'est-à-dire un paysan. Ce qui va nous donner tout de suite quelque chose de très incarné. Il dira « mon théâtre, c'est un théâtre qui vient du ventre ».
Oui, effectivement. Alors, Claudel assumait à la fois son côté bourgeois, d'aimer le confort et les honneurs aussi, hein, parce que c'était un homme qui aimait les honneurs, mais aussi son côté paysan avec les pieds sur terre. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est que ses parents n'étaient pas croyants. Son père avait pourtant été élevé chez les jésuites, mais il était complètement anticlérical. Sa mère était, on va dire, indifférente à la religion. Sa sœur Camille, la fameuse Camille, on en parlera, était elle aussi une incrédule. Et pourtant, il va se convertir et renouer avec la génération antérieure, celle de son grand-père et de son grand-oncle, celui qui était curé. Alors la conversion, événement majeur, pivot dans la vie de Claudel, elle survient, les connaisseurs le savent bien, le 25 décembre 1886, lors de la messe de Noël à Notre-Dame de Paris. Il est derrière son pilier et d'un seul coup, il le dit lui-même, il croit. Est-ce que c'est une conversion immédiate ou est-ce qu'il va hésiter tout de même quelque temps avant de se rendre à Dieu?
Alors l'énoncé de sa conversion par Claudel lui-même, « J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie, et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire, la toucher. » Alors, reconstitution à la Saint-Paul, d'un chemin de Damas, de conversion, bien sûr, c'est fulgurant, mais peut-être des hésitations. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui cherche le sens de la vie. Le scientisme, Auguste Comte, une sorte de désert philosophique, et puis, il a suivi quand même Mallarmé, il l'a connu, il était au réunion de Mallarmé. Son grand maître, ce sera Rimbaud. Alchimie du verbe, qu'est-ce que c'est que Rimbaud? C'est finalement un poète visionnaire, illumination, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui est un alchimiste, qui va recréer une nouvelle langue et surtout offrir un nouveau monde, un au-delà du monde. Donc il y a déjà des pierres d'attente. Sa sœur, Camille, lui offre une Bible, protestante certes, mais quand même une Bible. Donc on va dire qu'entre l'écriture de cet événement qui est une réécriture midrashique pratiquement de saint Paul, il y a le réel qui est d'un homme qui hésite entre mort et vie. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le commentaire de ce Magnificat. c'est à Vêpres hein, qu'il a eu cette conversion, au moment du Magnificat, et dans les cinq grandes odes, dans le Magnificat lui-même, vous avez comme un écho de sa conversion. Vous avez mis dans mon cœur l'horreur de la mort, mon âme n'a point tolérance de la mort. Je veux dire que c'était un homme partagé entre la mort et la vie. Un épris d'absolu, ce qui constituait un terrain un peu préparatoire à cette conversion.
La mort, pour Claudel, justement, il a la mort en horreur. Le Christ, nous l'a dit saint Augustin, c'est la mort de la mort. Pour Claudel, le choix est assez simple, si on peut dire, simple en apparence. Il y a Dieu ou il n'y a rien. Il y a la foi ou il y a le nihilisme, c'est-à-dire le désespoir, mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de demi-teinte.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui va se jeter sur la Bible, qui va dévorer la Bible. 6000 pages de commentaires bibliques. Claudel répond les psaumes, c'est écrit sur l'Apocalypse. 6000 pages, c'est énorme, énorme. Et c'est quelqu'un qui va aussi chercher en philosophie un auteur qui puisse répondre, et c'est saint Thomas. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Et Claudel, c'est un volcan, j'allais dire, de foi. Je crois qu'on peut le comprendre à partir de cette conversion et de ce corps à cœur, je dirais presque, avec Dieu. Je dis bien corps à cœur pour insister sur l'incarnation.
Alors, il se posera quand même la question de la vocation monastique.
À 32 ans.
Puisqu'il va séjourner à Ligugé, chez les bénédictins, donc pas loin de Poitiers, trois fois, je crois.
Oui.
Avant de finalement renoncer à entrer dans les ordres.
Oui, alors renoncement ou discernement de la part du maître des novices, c'est difficile pour lui, parce qu'il considérera que l'écriture est une moindre vocation. Donc, certes, on le voit souvent comme quelqu'un qui aime les honneurs, brangue superbe château, qui aime un petit peu l'argent et qui serait soi-disant prétentieux, orgueilleux. Il y a une brisure, une fêlure à l'origine de son écriture et qui le rend très humble. La grande vocation, c'est la vie contemplative. Il le voit comme un non-accès possible et donc, excusez-moi pour l'expression, un pis-aller que l'écriture. Quand on est Claudel et que c'est un géant, parce que c'est notre Dante, il faut bien le dire, c'est notre Dante. Eh bien, pour lui, c'est faire un acte d'humilité.
On va parler maintenant d'un autre aspect très important de sa vie de l'homme, c'est sa carrière de diplomate, bien sûr, qui va l'emmener aux quatre coins du monde. Il est reçu premier au concours des affaires étrangères et il est nommé, en 1893, consul suppléant à New York. C'est là que sa carrière de diplomate va commencer. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette carrière de diplomate? Alors, on parlait des honneurs, évidemment, ça lui correspond bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute l'ouverture à des cultures extrêmement différentes.
Oui, alors ça va être une cas de diplomate fulgurante, hein, parce qu'il va franchir tous les degrés pour finir ambassadeur. Il va voir, comme vous me disiez en préparant l'émission, cinq continents, Fuzhou, Pékin, donc les quatre ans en Chine qui vont donner naissance à les feuillets pour éventail, ces calligrammes qui sont en vis-à-vis avec des cryptogrammes, et une culture qui va aussi l'ouvrir à une autre religion, la religion confucéenne. Autant le bouddhisme n'y rentrera pas, autant la Chine aura une influence sur son écriture en particulier. L'autre élément de sa diplomatie, c'est d'avoir une vision mondiale des choses, qu'on retrouvera tout à fait dans la structure de Sous les Satins. De faire exploser, bien sûr, les unités de temps, d'action, de lieu propre au théâtre classique, et même le drame qu'on a dans le drame romantique de Victor Hugo, tout ça explose parce que la scène est à la fois l'histoire, dans un accordéon au rapprochement des époques, et le globe. Et ça, c'est son apport de diplomate. Alors, que retirer aussi, le troisième petit point de la diplomatie, c'est son emploi du temps. Il se lève à 5 heures le matin, la messe et l'écriture. Et quand à 8 heures, il commence sa journée diplomatique, il dit « j'ai fait l'essentiel ». L'essentiel est déjà derrière moi.
Une chose dont on doit parler aussi, ce sont ses engagements, et notamment ses engagements politiques pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, même avant, hein, il sera par exemple un fervent opposant à l'Action française, à Charles Maurras. Il va soutenir dès 1941 les Juifs de France. Il écrit une lettre au grand rabbin de France. Avant, il y aura eu son ode au maréchal Pétain. Comment vous expliquez un peu ces errements? Ce qu'il faut dire, c'est que Claudel était espionné par la police de Vichy dès 1940.
Oui, je crois qu'il y a la fonction et l'homme. Quand on a une fonction de diplomate et d'ambassadeur, on n'est pas forcément libre. Et accepter Général de Gaulle n'a pas été simple. On pouvait le voir comme un imposteur. Je veux dire que voilà, il faut reconsidérer les choses dans leur passé. Ce qui est très notable, c'est sa radicale opposition à l'Action française. Peut-être moins notable son engagement à la suite de Franco, on va dire, dans 1936, dans la guerre d'Espagne. Mais là aussi, ne jugeons pas les chrétiens engagés comme Bernanos et Maritain, ils ne sont pas pléthore contre Franco, je veux dire. Je crois qu'il faut nuancer l'image qu'on a de Claudel, qui est souvent vu comme quelqu'un de radical, d'absolu, d'entier, de dur. Certes, si je reprends la comparaison avec Maritain, il y a eu une petite émulation, disons ça comme ça. Claudel a pu reprocher des choses à Maritain, peut-être était-il simplement jaloux de voir que Meudon était, comme il dit, une maison de conversion. C'était un petit peu méchant, mais je crois qu'on a deux grandes figures dans cette première moitié du XXe siècle et qui vont être marquées aussi sur le plan éditorial. Ils fondent la NRF, ce n'est pas rien, avec Gaston Gallimard, etc. Certes, Maritain tiendra tête, on a voilà, deux frères ennemis, va-t-on dire, mais qui promeuvent Dieu.
Ces amitiés, ces grandes amitiés littéraires, artistiques, ces influences aussi, quelles sont-elles ?
Alors, les amitiés artistiques du passé, Rimbaud, Mallarmé, et du présent, on va dire l'amitié avec Millau, vous le souvenez, Darius Millau, voilà, une amitié justement avec le milieu juif, c'est important, avec la musique, ce qui lui permettra de faire non pas un art total à la Wagner, mais un art complet, un art parfait. Peindre des rideaux de scène, envisager une musique contemporaine, etc. Très avant-gardiste. Et puis, dans cette frénésie épistolaire qui caractérise cette génération des Mauriac, des Claudel, etc., il y a, on va dire, un véritable filet de correspondants en France et dans le monde. Alors, je peux citer Fournier, on peut citer Rivière, Maritain.
Ses relations avec Gide aussi sont assez ambivalentes. Hein.
Bien sûr. Parce que Gide n'est pas croyant, et Gide, avec toute la polémique autour de Coridon,
oui.
La publication donc, de l'éloge, on va dire, non seulement de l'homosexualité, mais de la pédérastie, il va y avoir une délégation qui va envoyer justement Maritain en Normandie chez Gide pour lui interdire le...
La préface, dans la préface, il utilise
voilà,
une,
tout à fait.
Une phrase de Claudel.
Donc la relation, on va dire, de Claudel, elle n'est pas moralisatrice comme celle de Maritain vis-à-vis de Gide, mais elle est pas d'accord, j'allais dire.
Le Claudel de la fin, donc il va mourir à un âge avancé, hein, 87 ans, en 1955. Il rentre à l'Académie en 47, sur le tard.
Au siège numéro 13, celui de Racine.
Celui de Racine. Et donc, il vivra assez longtemps, hein, de longues années au château de Brangues, en Isère. Magnifique demeure, hein, avec un parc superbe.
Où je rends hommage à mon père, qui m'a emmené aux journées claudeliennes, où il y avait à l'époque Gérald Antoine, et puis à chaque fois des représentations ou des concerts donnés par les enfants donc de Claudel. Je ne sais pas si ça a encore lieu, mais en tout cas, je le dis à nos auditeurs, allez-y, c'est un lieu magnifique.
Qui appartient toujours à l'association des amis de Paul Claudel. Alors, il restera un pratiquant fervent jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ça, même à Brangues, il y avait une chapelle, je crois, où il allait prier tous les jours. Et ça, ce sera quelque chose d'invariable pour lui. Hein. Quelles auront été d'ailleurs ses relations avec l'Église ? Il a toujours défendu vraiment l'Église.
Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui... Comment vous dire ? Une Église dont la première note, c'est son universalité. Donc, sa catholicité au sens étymologique. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'écriture de Claudel comme une écriture qui fait imploser ce que j'appellerais la piété. On dépasse complètement la piété pour aller vers une sorte d'ontologie de l'écriture. L'Église, elle est éternelle, elle a les clés, les promesses, elle est l'épouse du Christ. Et donc, c'est quelqu'un qui va s'intéresser, par exemple, aux petites saintes. Petite sainte Rose de Lima, je prends un exemple. Et il va développer. Voilà, on a quelqu'un qui va, dans les feuillets de saints, par exemple, s'intéresser à toutes les figures des saints de l'Église.
Catholique fervent, donc, très pratiquant, mais il y a cet épitaphe assez curieux sur la tombe de Claudel. Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. C'est pas tout à fait le genre d'épitaphe qu'on s'attend à trouver sur la tombe d'un catholique fervent, comme je le disais.
Oui, alors reste, on a l'impression de quelque chose de triste et de peu tourné vers la résurrection. Mais c'est au sens de relique. Sachant relique, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on peut avoir. Et puis surtout, il y a l'idée de tu es poussière et tu redeviendras
poussière.
Quant à semence, c'est justement la résurrection. Donc je crois qu'il faut garder ces deux mouvements et qui expliquent très bien l'œuvre de Claudel. C'est-à-dire ce mouvement de pécheur sauvé. qu'on a vraiment dans son écriture, dans cette présence du corps, cette présence de la faute, cette présence du pouvoir, cette présence de l'argent, cette présence de la jalousie, ce problème de l'adultère. Quand il rencontre sur le bateau Rosa Welch, c'est une relation houleuse. Il y a une fille extra-mariage qui naît. Voilà, je veux dire que c'est la terre. Parce que beaucoup de catholiques rejettent Claudel. Au nom de ça, quand même, il aimait l'argent. Quand même, il est prétentieux. Faux. Pécheur sauvé. Reste et semence.
Il faut qu'on écoute la voix si particulière de Paul Claudel dans cette émission. Et nous allons l'écouter lire le début, l'introïte de la messe là-bas. Un texte qu'il a écrit alors qu'il était ambassadeur à Rio de Janeiro. C'est un extrait de ses entretiens filmés avec Jean Amrouche.
Une fois de plus, l'exil... L'âme toute seule une fois de plus qui remonte à son château est le premier rayon du soleil sur la corne du Corcovado. Tant de pays derrière moi commencés sans que jamais aucune demeure s'y achève. Mon mariage est en deçà de la mer, une femme et ses enfants que j'ai eus en rêve. Tous ces yeux où j'ai lu un instant qu'ils me connaissaient, tous ces gens comme s'ils étaient vivants que j'ai fréquentés, tout cela est pareil une fois de plus à ces choses qui n'ont jamais été. Ici, je n'ai plus comme compagnie que cette augmentation de la lumière, la montagne qui fait un fond noir éternel et ces palmiers dessinés comme sur du verre. Et quand la création, après le jour sans heure, se condense une fois de plus du néant, fidèle à l'immense quai, chaque soir je vais revisiter l'océan. La mer et ce grand campement tout autour avec un million de feux qui s'allument. L'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir comme des nymphes couronnées de plumes. L'océan qui arrive par cette porte là-bas et qui tape contre la berge haute. Sous le ciel chargé de pluie de toutes parts, ces chandelles de 50 pieds qui sautent. Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente, la même grande tache de soleil au milieu sans rien, et cette voix qui raconte et qui se lamente. Voici la contagion de la nuit qui gagne tout le ciel peu à peu, le jour après 6 jours qui fait 7, et pas un qui ne me rapproche de Dieu.
La voix étonnante de Paul Claudel avec ses intonations, un peu à la Michel Serrault, qui lisait donc l'introïte de la messe là-bas. Il a 82 ans lorsqu'il s'entretient ici avec Amrouche. Peut-être un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Claire Bressolette. Là, il est question de l'exil et de la foi.
Oui.
Et puis, il y a le verset claudélien.
Voilà. Exil et la foi, parce que le grand exilé, c'est le Christ. La grande geste chrétienne, c'est descente, remontée. Incarnation, résurrection, crèche, résurrection. Et Claudel l'a tellement intégré. Il a vraiment compris, c'est ce mouvement-là qu'on entend, d'où l'exil. Et le verset claudélien reprend. Verset claudélien, il y a un aller et un retour. C'est vraiment l'inventeur, non pas de la prose poétique, c'est déjà Baudelaire qui l'a fait, puis Rimbaud qui a repris, mais allant plus loin dans cet héritage rimbaldien et baudelairien pour inventer une sorte de musique du verset claudélien.
Et on l'entend, la musique.
Voilà, on l'entend dans cette lecture. Je le répète, c'est notre Dante.
Une chose qu'on doit aborder tout de même, parce que les gens ne comprendraient pas qu'on n'en parle pas, c'est sa relation avec sa sœur Camille. On l'a accusé, Claudel, de l'avoir abandonnée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien la vie de Claudel et la relation qu'il a pu avoir avec sa sœur aînée?
Alors justement, question très délicate, je n'en pense rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir que des faits. Elle est internée, on va dire, pendant à peu près 30 ans.
Oui, elle a presque 50 ans lorsqu'elle est internée. Il faut bien que les gens comprennent que lorsqu'on voit le film avec Isabelle Adjani qui évidemment ne vieillit pas pendant le film, elle n'est pas internée lorsqu'elle est encore très jeune. Elle est internée lorsqu'elle a 49 ans.
Voilà. Il y a 12 visites sur 30 ans, c'est-à-dire un peu plus qu'une visite de 2 ans et demi ou de 3 ans. Pour un diplomate qui a 5 enfants, qui est marié, qui écrit, qui court le monde, qui est en Belgique, à Fuzhou, Pékin, Rio de Janeiro et compagnie, c'est bien. Voir sa sœur internée alors qu'on pensait que c'était contagieux, que ça pouvait être dangereux, eh bien, il faut voir les choses complètement différemment. Eh bien, il se débrouille pour aller la voir. Alors, on va dire, elle meurt de faim. Bien sûr, on lit ça sur Wikipédia. Nous durcissons tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une acrimonie vis-à-vis de Claudel à cause de cette petite phrase qu'il a pu dire sur Camille. Elle avait du génie, elle aussi. Voilà. Et puis, tout simplement, un auteur catholique, on cherche toujours Haro sur le baudet.
Je referme la parenthèse. Après cette partie consacrée essentiellement à la biographie et à la vie de Paul Claudel, nous allons faire une pause dans cette émission avant d'aborder son œuvre littéraire qui est immense, hein, son théâtre, sa poésie, ses œuvres en prose. Auparavant, nous allons faire une pause en musique où l'écrivain est toutefois présent puisqu'il s'agit des cantates de guerre composées par son ami Darius Milhaud sur des paroles de Claudel.
Vivante Église, Éric Dupri.
Et nous revoici, je suis toujours en compagnie de Claire Bressolette, professeure de lettres et de philosophie, productrice de l'émission La philosophie réaliste sur Radio Présence. Et nous sommes au téléphone avec Claude D'Andrea, également professeur de lettres, il est aussi professeur d'anglais et grand amoureux de l'œuvre de Claudel. Une question me brûle les lèvres, faut-il considérer Paul Claudel essentiellement comme un dramaturge ? Paul Léoto, par exemple, le considérait comme tel et disait que la poésie de Claudel ne l'avait jamais intéressé. Alors je pose la question à Claude D'Andrea. Vous connaissez bien le théâtre de Claudel, mais sa poésie aussi. Est-ce que vous le considérez essentiellement comme un dramaturge ?
Ah, tout à fait. Il a renouvelé, je pense, la forme théâtrale à beaucoup de points de vue. Je crois que si tant le metteur en scène aujourd'hui revient à son œuvre, ce n'est pas un hasard non plus.
Si on parle de son théâtre, on va commencer par là pour parler de l'œuvre de Claudel. Quelles sont, selon vous, ses œuvres maîtresses, celles qui ont une importance particulière dans toute sa production théâtrale ?
Ah ben, y en a qui émergent du lot quand même. Je pense en particulier à Partage de Midi, qui a été souvent représenté. Moi, j'en ai vu plusieurs fois des interprétations, même dans les petits théâtres, et ça a une grande force. Et puis, L'Annonce faite à Marie, qui est tout à fait abordable pour beaucoup de gens, parce que c'est une histoire populaire qui intéresse un certain nombre de gens. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs non professionnels ont monté cette pièce. Et, bon, moi-même, je l'ai jouée, j'ai joué Pierre Ducrin, et c'est une pièce qui est vraiment très attachante.
Vous avez prononcé un mot, là, et je voudrais qu'on prolonge un petit peu sur cet aspect-là. Vous avez prononcé le mot « populaire ». Est-ce que Claudel est, par certains côtés, un auteur populaire ? C'est pas forcément l'adjectif qui vient à l'esprit pour beaucoup de gens lorsqu'on évoque le théâtre de Paul Claudel.
Ah, je suis d'accord avec vous, oui. C'est certain que c'est une œuvre difficile, beaucoup de critiques l'ont reconnue, par son langage en particulier, les versets et le mouvement même de l'œuvre. Je pense qu'il y a peu de pièces vraiment populaires dans son répertoire, mais L'Annonce faite à Marie en est une quand même, qui a été souvent représentée dans beaucoup de pays et en même temps par des grands metteurs en scène.
Il y a deux autres pièces qui, moi, me viennent à l'esprit lorsqu'on parle du théâtre de Claudel. C'est évidemment Le Soulier de Satin. On va y venir dans quelques instants, hein, cette pièce dont la version longue dure 9 heures. Et Tête d'or. Je voudrais qu'on parle de Tête d'or parce que ça, c'est sa pièce qui survient. Il est dans l'écriture au moment où il va se convertir. D'ailleurs, il n'est pas complètement converti quand il la termine. On est encore dans un Claudel qui est un peu nietzschéen par certains côtés. Quelle place vous lui donnez dans le théâtre de Claudel, à Tête d'or ?
Je pense que d'abord c'est une œuvre qui introduit toutes les autres pièces par son style et sa beauté plastique aussi en même temps. Et en même temps, je trouve qu'elle a été assez souvent jouée, encore récemment. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, elle a été même jouée devant Général de Gaulle à l'époque, dans les années 60. Et ça avait été une redécouverte pour beaucoup de ce qu'est vraiment la beauté claudéenne.
Claire Bressolette, sur cet aspect théâtral de l'œuvre de Claudel, vous, qu'est-ce que vous retenez surtout ?
Moi, je retiens que c'est un théâtre, j'allais dire, qui s'adresse à des gens lettrés, malgré tout, même s'il mélange le très concret avec le très abstrait. Je te fourre cette idée. On a ça dans Partage de Midi. Voilà, on voit très très bien, mais c'est difficile à entendre. Je l'ai vu à la Comédie Française, ça commence avec un Indien tourné nu. Alors, les noms aussi, Thomas Pollock Nageoire, Lethiel Burnon, on a des noms de personnages qui sont complexes. Dans le début de L'Annonce faite à Marie, vous avez cette phrase très chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas aller au bout du monde ou donner un baiser aux lépreux, mais c'est rester à sa place. Mais c'est splendide, c'est-à-dire obéir à la vocation que Dieu a pour nous. Alors, c'est un théâtre qui reste difficile, je dirais, je le définirais par baroque. C'est éminemment baroque, on le voit très bien avec la référence à la Malastrana de Prague dans Le Soulier de Satin, Saint-Denis qui tient sa tête dans les mains, etc. Les effets que Jean-Louis Barrault a très bien compris en mettant du plastique dans la mise en scène quand il l'a monté en 1943. Un baroque au sens de barocco qui surprend. C'est-à-dire que la prose claudélienne surprend par cette concaténation du concret et du figuré, du chrétien et du païen. L'homme païen, il est en nous, le vieil homme est en moi, c'est saint Paul. Et cette complexité de la temporalité et de l'espace. Voilà, la bouchère qui mord la lune avec ses dents en nageant, en souquant vers Jean d'Espagne. Ou cette histoire de lettres de Rodrigue et de Chimène que Claudel lui-même a vécu. Une lettre qui met 10 ans à parvenir à son destinataire, c'est une réalité vécue dans la vie de Claudel, transposée dans Soulier de Satin. Donc c'est ce qui rend son théâtre, j'allais dire, ouvert au cosmos et à l'histoire de l'humanité.
On débouche avec le Soulier de Satin sur une vision planétaire qui intéresse toujours beaucoup de metteurs en scène. Et on voit avec le dernier Eric Ruff, hein, qui a voulu reprendre l'œuvre, mais en faisant pas mal de coupures tout de même. Mais il y a trouvé, sans doute, une grande valeur pour aujourd'hui encore, surtout dans un monde de ces temps-ci qui est quand même peu intéressé par la littérature ou par le lyrisme. Il y a quand même chez Claudel une veine lyrique fondamentale.
On l'a entendu tout à l'heure lorsqu'il lisait l'introïte de la messe là-bas. Hein.
Oui.
C'est toujours une expérience que d'entendre un auteur lire sa propre production, et en l'occurrence sa poésie en prose. Le Soulier de Satin tout de même, qu'est-ce que c'est que cet objet, Claire Bressolette ? 9 heures de théâtre, personne n'a fait ça. Ça aussi, il n'y avait que Claudel qui pouvait faire quelque chose comme ça.
Je ne sais pas, mais alors Claudel va reprendre et va répondre à Baudelaire qui dit « Il faut chercher l'infini dans toujours nouveau ». Et Claudel va lui répondre « Non, il faut chercher l'inépuisable dans le fini ». Je pense que la notion de limite est importante parce qu'il y a quand même des journées dans tout le satin. Il y a quand même une géographie, des limites.
Un espace avec des limites.
Et puis cette femme qu'on ne peut pas posséder. Rodrigue, elle est en moi, mais c'est compliqué. Je dirais que la temporalité de 9 heures, elle est fragmentable puisqu'il y a une petite version et une grande version.
Heures, il y a une version de 5 heures,
voilà.
À peu près.
Pour l'avoir vue dans la cour du Palais des Papes, montée par Antoine Vitesse avec Ludmila Michael, avec les hirondelles qui criaient au-dessus, et puis on ne sait plus où on est parce qu'on est fatigué par la nuit et porté par la nuit, je dirais que ces 9 heures tiennent la route. On entre en Claudélie et on sort, il y a le monde à côté, et on a besoin de se concentrer de temps en temps dans un ailleurs.
Mais on sent très fortement l'influence de Shakespeare. Hein.
Tout à fait.
Très, oui. Très net.
La mise en abîme permanente, le théâtre dans le théâtre. Oui.
C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de cette influence aussi chez Claudel, bien en sûr. Tout cas, évidemment, pour son théâtre. Alors, on va faire une autre pause musicale dans cette émission. Ça va peut-être surprendre nos auditeurs. Nous allons écouter le premier air de l'acte 1 de Faust, l'opéra de Charles Gounod. Nous vous expliquerons pourquoi ensuite. Voici donc « Rien, en vain j'interroge » et c'est Placido Domingo qui chante. Rien en vain j'interroge, air de l'acte 1, chanté, donc c'est Faust qui chante, là, et c'est Placido Domingo qui l'interprète. C'est vous, Claude D'Andrea, qui avez souhaité que nous écoutions cet air, pour quelle raison?
Oui, parce que je trouve que Gounod, qui est souvent malmené par la critique, avait trouvé un sujet passionnant, qu'il a repris de la Renaissance, donc on sent derrière cette hantise du temps qui passe, et de la vieillesse, quelque chose qui est très très fort chez Gounod, qui par ailleurs a fait des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables. Mais alors d'un côté, c'est un vieillard qui se rappelle sa jeunesse, mais de l'autre, c'est un jeune homme, au contraire, qui devant le monde est dans tête d'or est complètement perdu. Mais je trouvais que il y avait dans cette comparaison, je pense souvent au contemporain de Shakespeare qui était Marlowe. Marlowe a écrit une pièce sur Faust, une très grande beauté. Et donc j'ai pensé que ce ne serait pas bizarre de rapprocher ces deux visions de la destinée humaine.
Et je crois que vous vouliez nous lire un extrait du monologue de Cébès dans Tête d'or qui se rapproche de l'air que nous venons d'écouter.
Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Et je tourne ma face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien et je ne peux rien. Que dire? Que faire? À quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent comme les songes? Tout ce qu'on dit et la raison des sages m'a instruit avec la sagesse du tambour. Les livres sont ivres. Il n'y a rien que moi qui regarde. Il me semble que tout, l'air brumeux, les labours frais, et les arbres et les nuées aériennes me parlent avec un langage plus vague que le ya-ya de la mer, disant « Oh, être jeune, nouveau, qui es-tu? Que fais-tu? Qu'attends-tu, hôte de ces heures qui ne sont ni jour ni ombre, ni bœuf qui hume le sommeil, ni laboureur attardé à notre bord gris ?»
Magnifique lecture, merci beaucoup Claude D'Andrea. Donc Cébès, le monologue de Cébès dans Tête d'or. On a parlé du théâtre, on aurait pu en parler beaucoup plus longuement bien sûr, mais le temps presse un peu. La poésie de Paul Claudel maintenant, quelle place occupe-t-elle selon vous, non seulement dans son œuvre, mais également si on la compare à celle des autres poètes de sa génération?
On a un peu parlé de la poésie avec le verset claudélien. Je voudrais citer les 50 odes, parce qu'on entend un peu de versets. Et puis surtout, on a une expérience humaine, celle de la paternité, exprimée de manière absolument superbe. « Soyez bénis, parce que je ne demeure point unique, et que de moi il est sorti existence et suscitation de mon immortel enfant, et que de moi, à mon tour, en cette image réelle pour jamais, d'une âme jointe avec un corps, vous avez reçu figure et dimension, etc. » Quel est l'apport de Claudel? C'est de désyntaxiser la langue française et de donner tout son poids aux mots. Alors ça, c'est l'héritage rimbaldien, mais parachevé par Claudel. On voit très bien, il est sorti existence. Il n'y a plus d'article. Ça nous paraît anodin, mais on a 100 ans qui nous séparent de cette publication. Donc une immense force poétique par le nouvel ajointement des mots.
Est-ce que son œuvre poétique est, selon vous, hein, évidemment, injustement oubliée, occultée aujourd'hui, ou mésestimée en tout cas?
Complètement. Injustement.
Mésestimée, oui.
Vas-y, ben, Claude.
Pourtant, il y a eu cette relation très forte entre Saint John Perse et lui, et Claudel.
Autre diplomate.
Ah oui, autre diplomate. Ils étaient sur la même longueur d'onde, pourrais-je dire, bien que Saint John Perse ne fût pas chrétien.
Oui.
Oui, tout à fait. Saint-Jean de Perse parle du divin, hein. Vous qui parlez l'Ossète sur quelques pentes caucasiennes, pardant de grandes sécheresses et d'effritements rocheux, savez combien, proche du sol, au fil de l'herbe et de la brise, se fait sentir à vous l'haleine du divin. C'est dans vent.
Exactement,
mais
oui.
La différence entre Claudel et Saint-Jean de Perse, c'est qu'il y aura le goût du mot rare chez Saint-Jean de Perse, comme un entomologiste. Ce qu'on n'a pas chez Claudel, c'est une profusion volcanique de vocabulaire. Mais c'est plutôt la juxtaposition d'un mot abstrait ou concret et de deux mots étrangers l'un à l'autre qui fait sa force poétique. C'est pour ça que je trouve extraordinairement injuste, parce que quand on pense au surréalisme qui définit l'image, Pierre Reverdy donne une très belle définition de l'image, plus les réalités sont éloignées, plus l'image est forte. Mais dans ce cas-là, le grand poète du XXe siècle, c'est vraiment Claudel. Parce qu'il y a quelque chose d'un héritage un peu parnassien chez Saint-Jean de Perse, avec la beauté lyrique qui transcende. Hein. Mais ce mot rare qu'on n'a pas chez Claudel, mais qu'on a chez Perse, avec Si léger, Saint léger, eh bien, elle est triste hein, de la part de nos contemporains qui, parce qu'il est chrétien, tout simplement, ne lui donne pas sa juste place.
C'est juste, oui, oui.
Alors, rapidement, avant de terminer, un autre versant de l'œuvre claudélienne que je voulais aborder, ce sont les correspondances, les conversations, les entretiens. Je pense à la correspondance avec Jacques Rivière ou aux fameuses conversations dans le Loir-et-Cher. Ça me semble important aussi à connaître ça, Claire Boisselette.
Tout à fait. On pourrait dire que les conversations dans le Loir-et-Cher sont une sorte de transcription des correspondances qu'il peut avoir. L'homme aux deux cravates, dans le correspondance de Loir-et-Cher, c'est cocasse. On tombe presque dans le burlesque, traité donc des sujets nobles de manière un peu grivoise, un peu simple, décalé, cocasse. Et ça donne une image d'un Claudel qui a de l'humour. Je pense qu'à force de dire voilà, le taureau, l'homme de diplomate, le grand dramaturge, le nouveau Dante, on oublie l'homme simple. Et il y a un philosophe chez Claudel qu'on a dans Conversation dans Loir-et-Cher, et on l'a dans Contact et circonstances. Je vois le titre que j'avais choisi pour aujourd'hui, Le droit à l'espoir. on a toute une réflexion de Claudel sur les grands écrivains, ce qu'il va dire sur Victor Hugo. Il est jaloux de Hugo, forcément. Les grands Everest.
Comment ne pas l'être.
Les Everest, hein, voilà. Et puis on a cet humour qu'on trouve dans Conversation dans Loir-et-Cher, en partant de sujets très simples et donnant une profondeur. On le retrouve dans les sept psaumes de la pénitence. Si on lit, regardez, « Ayez pitié de moi, Dieu, dans l'énormité de ta miséricorde ». On parle du « vous » au « tu », l'énormité de ta miséricorde, on s'adresse à Dieu, on est en décalage. Et ce décalage, très prégnant dans ces conversations, ben on le retrouve partout.
Ce lien avec d'autres écrivains comme André Suarez, avec qui il a maintenu une correspondance régulière.
Voilà un autre grand oublié de notre littérature, mais qu'on redécouvre un peu ces temps-ci, Suarez, André Suarez, voilà quelqu'un qu'il faut absolument relire aussi. Une question pour terminer que je vous pose à tous les deux. On sait que la foi de Claudel nourrit, infuse son œuvre, et inversement, sans doute, pour vous, est-ce que Claudel est un écrivain catholique ou un catholique qui écrit ? Claude Andréa d'abord.
Je dirais un catholique qui écrit, parce que l'autre interprétation ou l'autre définition me paraît un peu difficile à suivre quand même.
Claire Bressolette.
Je dirais la même chose en changeant. C'est pas catholique, c'est chrétien.
Oui,
bien sûr, catholicité universelle, mais dans chrétien, on a Christ encore plus.
Oui, exactement, oui.
Et je pense qu'il transcende tellement les adjectifs qui peuvent le qualifier. Il y a cette espèce de force qui est celle du Christ. Voilà, cette relation personnelle qu'il a au Christ qui lui permet d'être libre. Claudel répond les psaumes. J'ai entendu dire, mais quel prétentieux d'écrire ça. Mais non, c'est la réponse de celui qui est appelé et qui dit, me voici.
C'est une belle phrase de conclusion, je trouve. Nous sommes loin d'avoir fait le tour du cas Claudel. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il faut malheureusement conclure cette émission. Merci infiniment à tous les deux d'en avoir été les invités et de nous avoir apporté toutes vos lumières sur la vie et l'œuvre de cet immense écrivain, mort il y a donc 70 ans. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je conseille par exemple, il y en a d'autres, mais la lecture de la biographie Paul Claudel, Je suis le contradictoire, publiée par Claude Pérez aux éditions du Cerf. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Excellente journée à tous à l'écoute de Radio Présence. À la semaine prochaine.